bienvenue au club. Jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie.
Dans quelques secondes, il sera 18h35. Bienvenue au club. C'est foot comme tous les lundis soirs avec Manuel Quesnel et son invité. Bonsoir.
Bonsoir, l'invité de bienvenue au club ce soir est le président de Quevilly-Rouen Métropole, Michel Mallet. En 2 ans, QRM est passé du CFA à la Ligue 2, autrement dit du monde amateur au monde pro. QRM souffre. Cette année, c'était prévu, QRM relégable à 14 journées de la fin, mais toujours dans le match pour se maintenir. Alors, quelles sont les raisons d'y croire ou de s'inquiéter? À quoi va ressembler QRM sans le FCR? Où en est la formation? Ou encore, comment séduire un public, gonfler le budget ou détendre les relations avec la presse? Voilà pour le sommaire. À la technique ce soir, jusqu'à 19h, c'est Patrick Bonamy qui signe le sans faute. Bienvenue au club, c'est parti.
France Bleu Normandie, bienvenue au club.
Bonsoir Michel Mallet, bienvenue au club.
Bonsoir.
Michel Mallet, ancien président de l'USQ, qui a fait rêver toute la France du foot avec ses aventures Coupe de France, et président de QRM depuis un petit peu moins de 3 ans, avec 2 montées successives et 1 troisième saison dans le dur. Sa première en Ligue 2. Michel Mallet, on va tout de suite se débarrasser de ça.
La question qui fâche.
La question qui fâche concerne ce qui s'est passé vendredi soir à Diochon, dans la foulée de la traditionnelle conférence de presse d'après-match de votre entraîneur Manu Dacosta. Je restitue un petit peu le contexte. QRM vient de perdre 1-0 contre Châteauroux. Manu est déçu, on le comprend. La conf, allez, on va dire, se passe à peu près normalement. Il envoie une petite pique à la presse, mais rien de grave. Et puis en plus, il a le droit. Et puis derrière, il pète un plomb. Il s'en prend de manière violente, menaçante, injuste à notre confrère de Paris-Normandie, Victorien Lenu. Ne fais pas le malin avec moi, ici c'est chez moi, c'est moi qui commande, maintenant tu te tais. Tout ça dans une salle de presse où par définition, quand même, les journalistes sont également chez eux et avec le droit, pour ne pas dire le devoir également de parler. Quel retour et quel regard vous avez sur ce dérapage?
Écoutez, je n'ai pas assisté à ce dérapage, comme vous dites. Moi, j'accorderai du crédit à mon coach, parce que effectivement, vous l'avez dit, il est sous pression sportivement, parce que c'est un gagneur avant tout, comme nous tous. Et puis, il est sous pression un petit peu des papiers ou des interventions médiatiques, et notamment le papier de vendredi, qui m'a fortement, moi aussi, agacé. Donc voilà, je discuterai de ça avec Manu Dacosta, mais je n'y accorderai pas plus d'importance que ça. Maintenant, je renvoie à la question que vous posiez tout à l'heure. Effectivement, comment on peut détendre les relations avec la presse? Je préférerais aborder ce sujet-là, voir comment on peut avoir une presse qui est derrière son club, plutôt qu'une presse qui est régulièrement à charge.
Est-ce qu'on peut, dans un papier, ce qu'a fait Victorien, appeler un entraîneur par son nom, dire à un moment Dacosta, comme on dirait, Wenger, Mourinho, Guardiola, sans que ça soit perçu comme une marque de respect, manque de respect?
Vous savez, moi je vais vous renvoyer à ce que j'ai vécu au début où j'étais directeur de magasin. Je me suis fait apostropher par un salarié que j'avais chez moi, parce qu'effectivement à l'époque la coutume c'était d'appeler Dupont, Durand et tout. Donc ce qui est légitime pour les uns peut l'être pour les autres.
Là, ce qui frappe, c'est vraiment le décalage entre la nature du papier, qui visiblement vous aussi vous a irrité, qui était plutôt, moi j'ai trouvé, un papier pro Dacosta, qui expliquait dans quelles conditions, et c'est lui qui parlait, avec des bouts de ficelle, on va dire, il travaillait sur le mercato, et la réaction de Manu.
Écoutez, moi je ne veux pas m'attarder sur ça, parce qu'on y accorde beaucoup trop d'importance à mon goût, même si je suis attaché à la qualité de la relation entre les hommes, donc ça j'évoquerai le sujet en interne.
Alors, on sait que le métier d'entraîneur est difficile. On mesure qu'avec les résultats qui sont aussi tendus, le mercato, son BEPF, Manu, soit suppression, qui sont un petit peu surtendus. Mais là, on a le sentiment qu'il faut qu'il se repose un petit peu. Il y a quelque chose là.
Oui, mais vous savez, on choisit pas les moments pour se reposer. Comme vous l'avez dit, les matchs s'enchaînent, la formation du DPF s'enchaîne. Il faut faire avec tout ça, et on est avant tout des êtres humains. Vous êtes sûrement, comme moi, passé par des périodes qui sont un peu plus compliquées, où on est mis à contribution fortement, et on n'a pas toujours le recul nécessaire, mais il ne faut pas non plus faire des montagnes de ce qui ne le mérite pas.
Comment vous pouvez l'aider?
En discutant. Chacun son rôle.
Pour lui dire quoi?
Non, mais il y a des choses plus importantes que ça, à mon sens, dans la vie du club. Dans votre sommaire, vous avez parlé plein de choses intéressantes, et je ne voudrais pas faire la moitié de l'émission là-dessus.
Mais en même temps, ça traduit quelque chose, ça traduit, je ne sais pas, une nervosité, parce que pendant la conférence de presse, il dit « je suis calme, je suis serein », Et c'est derrière, c'est pas l'impression que ça donne.
Oui, mais on est tous nerveux dans la situation où on est. Il y a des enjeux importants. On a à digérer une montée qui s'est vécue en 3 ans. On est passé d'un monde amateur à un monde très professionnel, parce que la Ligue 2, c'est tout de suite très professionnel. Il faut digérer tout ça. Il y a plein de choses que l'on a bien su faire. Il y a d'autres choses que l'on a besoin de construire encore. Et on les construit. Mais ça met les hommes et les femmes à contribution.
Est-ce que Manu était très professionnel dans la pré-conférence de presse ?
Ça, je vous en laisserai seul juge, parce que quand on est témoin à charge, c'est plus facile.
Non, témoin, tout simplement.
Oui, ou témoin.
Parce que moi, j'étais dans la salle, et c'était violent.
Mais j'ai pas de problème.
Et c'est pas toutes les semaines comme ça, et c'est pas dans tous les clubs comme ça, et c'est pas toutes les saisons comme ça. Et c'est quand même passé quelque chose, sincèrement.
Et ça ne sera pas comme ça demain, et voilà, c'est tout. C'est ça qu'il faut se dire.
Est-ce que quelqu'un a eu un contact depuis avec Paris-Normandie ? Pour s'excuser ou pour s'expliquer ?
Non, moi j'ai découvert ça dans la presse cet après-midi, donc je me rapprocherai de Paris-Normandie le moment venu.
Michel Mallet, le président de Cube Biron Métropole, est ce soir l'invité de Bienvenue au Club. Michel, après la question qui fâche, on va effectivement changer complètement de registre.
La question brosse à reluire.
La question brosse à reluire. Alors là, qu'on ne sort pas souvent, vous êtes le privilégié, elle concerne la formation, les jeunes de QRM, c'est le domaine de l'association, mais forcément, j'imagine que vous suivez ça également de très très près. Vos 17 ans, par exemple, sont 6e actuellement dans un championnat national, et devant, il y a uniquement des clubs pro. Vos U19 décrochent un 10 sur 10, je crois, 10 matchs, 10 victoires. Ils sont bien partis, eux également, a priori, pour retrouver un championnat national.
Oui, vous savez, c'est pas d'aujourd'hui qu'on travaille bien sur la formation. On a fourni au Havre, à Caen et à bien d'autres clubs professionnels des jeunes de talent, ce qui milite pour nous dans la volonté qui est la nôtre de réfléchir et de construire un centre de formation, parce que aujourd'hui la métropole rouennaise est élargie au département de l'Eure, fournit des footballeurs à l'ensemble de la France. Donc ce serait bien qu'égoïstement on fasse ce qu'il faut en tout cas pour se servir.
Vous avez un jeune actuellement en équipe de France des U17, hein, Samy Elker, qui a fait vraiment lui toutes ses classes chez vous. J'imagine qu'il est forcément sollicité. Est-ce que vous allez réussir à le garder ?
Non, sur les dernières informations que j'ai, il a signé au Havre hier. C'est pour nous forcément interpellant, mais on peut pas retenir les jeunes quand on n'a pas les structures. Samy a été très honnête avec nous ce week-end en nous disant « moi je veux aller dans un centre de formation ». On avait plein de choses intéressantes à lui proposer, outre l'aspect du contrat, mais c'était surtout la possibilité de travailler avec Manu Dacosta, d'intégrer les séances du monde pro. Mais voilà, il y a quand on s'appelle Le Havre ou quand on s'appelle Caen ou d'autres clubs, parce qu'il y avait 5 ou 6 clubs qui étaient sur lui, il y a des choses que nous on n'a pas la possibilité de proposer. Donc dépêchons-nous de travailler pour donner à ces jeunes-là la possibilité de rester sur leur territoire.
Manu a essayé de le convaincre, de lui parler ?
Oui, bien sûr. Manu l'a rencontré deux ou trois fois avec Thomas Tiercy. Laurent Duarte, le président de l'association, l'a rencontré encore samedi dernier. Mais voilà, la vision des jeunes n'est pas forcément celle qui est la nôtre.
Alors, où en est le projet du centre de formation ?
Écoutez, on en est au stade d'identification des sites potentiels. Vous savez qu'on est on est vraiment en manque de terrain, donc il faut un site suffisamment important pour accueillir plusieurs terrains. Il y a aussi une réflexion à mener avec le hockey, avec le rugby, avec le basket, sur la partie centrale du centre de formation, c'est-à-dire la partie suivi des cours, la partie logement. On est allé visiter le dernier centre de formation à Clermont-Ferrand, partagé entre le foot et le rugby. Il y a de belles idées à prendre. Voilà, c'est notre domaine. Moi, j'aimerais bien avoir arrêté pour la fin de l'année le site, pour ensuite travailler sur les possibilités d'accompagnement des uns et des autres, comment nous, on s'implique dedans, et puis, dans les 3 ans, pouvoir poser la première pierre.
Dans les 3 ans, donc c'est quand même encore relativement loin.
Oui, mais vous savez... Il n'y a pas des terrains pas trop chers, constructibles, aux portes de l'agglomération ou aux portes de Rouen comme ça. Ça ne se fait pas aussi facilement que l'on pourrait le croire ou le prétendre.
Aujourd'hui, vous avez le sentiment de, je vais peut-être forcer le trait, mais de former pour les autres ?
Oui, complètement. On a fourni, vous prenez le FC Rouen et l'USQVI de 2000 à à 2015, on sortait 5 ou 6 gamins tous les ans qui partaient dans les centres de formation. Donc oui, il est temps de penser à nous.
Est-ce qu'il y a un vrai pont, une vraie bonne relation entre l'entité pro, justement, et l'entité, disons, formation de QRM, pour parler plus directement, quelle est la relation entre Thomas Tiercy, qui est le directeur de la formation, et Emmanuel Acosta, qui lui est le patron chez les
pros? Mais la relation, elle est bonne.
Ils travaillent ensemble, ils se voient, ils se parlent.
Absolument, ils travaillent régulièrement ensemble, si je ne me trompe pas, ils sont encore en réunion ce soir ou demain, pour parler des recrutements, de la cellule de recrutement qu'on souhaite mettre en place pour la saison prochaine. Donc, on a des gens qui sont arrivés, il y en a d'autres qui arriveront pour travailler là-dessus.
Michel Mallet, ce soir, l'invité de Bienvenue au Club. Une courte pause et derrière, on va parler des moyens de QRM, de l'avenir de QRM, un avenir sans le plus ou le poids, on verra, du FCA.
Pour cette publicité Atoll, on nous a conseillé de faire un spot télé. On a trouvé ça idiot. On nous a aussi proposé une publicité sur Internet. Encore plus idiot, car on voulait vous parler des dangers de la lumière bleue, cette lumière nocive pour les yeux, issue de tous ces écrans devant lesquels nous passons des heures chaque jour. Alors pour vous dire qu'Atoll vous offrait le traitement pour vos verres contre cette lumière bleue, eh bien on a fait cette radio. Voilà, ça c'est sans risque.
Atoll, mon opticien. Dispositif médical. Offre valable sur les verres Essilor jusqu'au 28 février dans les magasins participants. Voir conditions en magasin.
Bienvenue au club. Jusqu'à 19h sur France Bleu Normandie.
Il est 18h46 sur France Bleu Normandie. L'heure de la deuxième mi-temps. Bienvenue au club avec comme invité ce soir Michel Mallet, le président de Quevilly-Rouen Métropole. Et pour poser les bonnes questions, toujours Manuel Quesnel.
Michel, pour se remettre en jambe, pour relancer l'émission, je vous propose d'écouter une minute 14 pour être très précis, de votre entraîneur Manuel Acosta.
Le seul club amateur qui montait en Ligue 2, c'est nous. La puissance financière des autres clubs, elle n'a rien à voir avec la nôtre. Johan Cour, par exemple, moi je connais son salaire. C'est un garçon qui pouvait fortement m'intéresser, mais c'était inenvisageable chez nous. Voilà. Donc aujourd'hui, nous, on est à des années-lumière de certains clubs. Même une indemnité de transfert de 40 000 euros, chez nous, ce n'est pas possible. C'est aussi simple que ça. Donc imaginez, par rapport à tous les autres clubs qui sont capables de mettre 1 million d'euros sur un garçon qui n'a jamais joué en pro. Et c'est pour ça que les gens qui sont aigris, ça m'interpelle, parce que réfléchissez 2 minutes. Et au lieu d'être aigris et négatif, supportez ces garçons-là qui ont le mérite aujourd'hui d'être encore vivants et d'avoir inversé la tendance, et aujourd'hui d'avoir encore plus de respect, de faire peur aux adversaires. Nous, je suis persuadé que si on fait l'exploit de se maintenir, la saison prochaine, on sera bien armé et on pourra devenir un très bon club de Ligue 2. Mais il y a cette étape obligatoire. Voilà, tout simplement. On souffre. On le savait. C'est une surprise pour personne. Pour personne. Je pense que c'est une saison qui va nous faire grandir grandement et on sortira beaucoup plus fort. Voilà. Et ça sera aussi jouissif qu'un titre de champion ou une montée. Ça, c'est sûr.
Michel Mallet est avec nous. 40 000 euros pour faire venir un joueur, c'est impossible pour QRM.
Vous savez, il faut se remettre dans le contexte du début de saison. On n'avait pas un euro à mettre sur des joueurs, puisque rappelez-vous que on a eu 350 000 euros de frais ou de manque à gagner sur nos déplacements au Mans sur les 6 premiers matchs, quand on intègre le match de la Coupe de la Ligue, et qu'on avait 460 000 euros qui n'étaient pas à notre disposition parce qu'on n'avait pas validé la licence club, qui était, elle, validée fin septembre seulement par la Ligue de football professionnel. Donc, fidèle à nos habitudes, on n'a pas dépensé l'argent qu'on n'avait pas. C'est une preuve de sérieux dans notre gestion. Et c'est pour ça que je suis en phase avec ce que dit Manu d'Acosta. Si on a le bonheur de se maintenir, notre budget en direction de l'équipe pro sera largement modifié par rapport à cette année.
Bourg, cette saison, par exemple, pour prendre un exemple, on parlait de Johan Cour qui est parti à Bourg, est plus attractif, Bourg a plus de moyens.
Ben oui, un budget qui est en tout cas complètement disponible dans les affectations dès le début de saison. C'est ce qui a été leur cas, ce n'était pas le nôtre.
Vous estimez avoir donné les moyens sur ce mercato à Manuel Acosta de réajuster son équipe, de bonifier son équipe, d'aller chercher le maintien avec cette équipe?
Oui, on a fait un gros travail en commun. Il a été aux manettes du début à la fin. On l'a bien accompagné. Et je pense que voilà, c'est l'avenir qui nous dira. C'est à la fin du bail qu'on paye les musiciens. Hein. Si on valide les quatre joueurs là, s'ils apportent ce qu'on est en droit d'attendre. Voilà, Pierre arrière droit est à même de nous amener ce qu'il nous manquait sur l'aspect défensif, défenseur central qui a besoin de se relancer pour aller à la Coupe du Monde international tunisien. lui aussi, il y a un double challenge, un pour lui, un pour nous. Et c'est vrai aussi pour les autres joueurs.
Nguinda, Dao, Louis, le Tunisien Mohamed, Ali, Yacoubi, pour vous, ce ne sont pas des joueurs en plus, ce sont de vrais renforts, c'était un peu l'objectif.
Très clairement. Ouais, ma feuille de route pour Manu da Costa, ce n'était pas de faire du nombre, c'était d'avoir des joueurs qui apportaient un vrai plus. Et je pense qu'en ce sens, le dernier coup du mercato, dans les dernières 48 heures, Jeff Louis, qui est loin d'être un deuxième couteau, et dans mon esprit et dans l'esprit de Manu da Costa, doit pouvoir nous permettre de tenir notre challenge.
Vous avez eu quel enseignement sur Jeff Louis, par exemple, sur l'état d'esprit, sur ce joueur qui a été beaucoup blessé quand même?
Oui, il a été blessé. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de qualités sportives, mais
il est annoncé, c'était un joueur formidable.
Et aussi des problèmes dans sa vie de tous les jours.
Le comportement. Vous êtes au courant de tout ça, forcément, bien sûr.
Oui, mais vous savez, après, on prend nos responsabilités. Et j'espère qu'il nous apportera ce qu'on attend.
Alors, plaçons-nous dans l'hypothèse d'un maintien en Ligue 2. On parlait de moyens. La saison prochaine, votre budget, l'idée c'est de le gonfler. Il pourrait passer de quoi à quoi, de combien à combien?
Ah, mais le budget ne changera pas de manière importante. C'est la part.
Il n'y a pas de piste de ce côté-là. Vous allez tout explorer. Il n'y a pas un méga sponsor qui va tomber du ciel. Il n'y a pas 15 loges qui vont être construites à la trêve.
Non, pas du tout. Vous savez que les travaux vont se faire sur les 3 ans qui viennent. Mais maintenant, il faut passer par les phases d'études, permis de construire et réalisation. Donc, ça prendra du temps. Même s'il y a quand même des choses qui se font à l'intersaison du côté des travaux.
Mais deux fois que vous dites 3 ans, donc ça fait encore 3 ans à serrer les fesses, 3 ans à tenir avant d'avoir le centre de formation,
ouais,
avant d'avoir
les loges. Attendez, c'est le lot de toutes les équipes qui montent. Je vous renvoie, il y a 2 ans où on était en CFA, National 2. Donc nous, on est très heureux d'être là et on va tout faire pour se maintenir et bien faire les choses.
Du côté du public, ça ne décolle pas.
Oui, tout à fait, mais c'est très franco-français, vous savez. Quand vous prenez Saint-Étienne, qui est 4e ou 5e du championnat, il joue quasiment un guichet fermé à tous les matchs, et pas tous. Par contre, vous prenez Saint-Étienne en grande difficulté cette année, il joue dans un stade qui est à moitié vide. Eh ben, c'est pareil pour nous. On n'a pas eu la chance d'enclencher notre début de saison avec des rencontres majeures, Nancy, Sochaux, Reims, qui se sont jouées au Mans. J'aurais bien aimé les jouer ici pour que le public apprécie les prestations qu'on a su faire là-bas, même si on les a pas toutes gagnées. Mais on a quand même fait là-dessus un nul, une défaite et une victoire contre des cadors de la Ligue 1 l'année dernière et qui sauveront facilement leur peau cette année, voire qui vont monter. Donc oui, on est en manque, mais je vous renvoie aussi à... On fait partie des 5 clubs qui avec lesquels on est dans la même moyenne. On n'est pas tout seul à 2500 ou 2700 spectateurs de moyenne. On n'est pas tout seul. Et pour des équipes qui sont là depuis très longtemps, font pas beaucoup mieux que nous.
Mmh. On pensait qu'il y aurait un effet, Diochon, quand même, lorsque vous êtes revenu à Diochon, que les gens seraient en manque de Ligue 2, en manque de spectacle. On pensait également que sur des matchs qui étaient peut-être pas des grosses affiches, mais après quelques bons résultats à l'extérieur, dernièrement, après le match du Gazélec, je regardais 2361 spectateurs, il n'y a pas eu d'effet Sochaux, d'effet Bois-en-Brèche, Châteauroux, c'est pareil, on est autour de 2300. Est-ce que c'est le bilan à la maison, le bilan Diochon, 5 matchs, 4 défaites, qui fait que ça ne vient pas?
Oui, moi je...
Ou est-ce que vous êtes fait à l'idée que quoi qu'on fasse, ça ne viendra pas?
Non, pas du tout, parce que vous savez, je fais plus à l'idée demain d'avoir une moyenne de spectateurs de 4000 ou 5000 spectateurs plutôt qu'une moyenne à moins de 3000. Mais je pense que vous avez donné les raisons, à la fois notre classement et le fait qu'on n'arrive pas à enclencher une série de victoires à domicile pour donner envie aux gens de venir nous voir. Voilà, l'effet télé, l'effet froid, l'effet pluie, refroidit. Mais si c'est en plus pour voir une équipe qui ne réussit pas son challenge sportif à domicile, voilà, c'est à nous de nous bouger un peu, d'être plus conquérant, d'être plus réaliste, de gagner des matchs. Et je pense qu'on emmènera le public avec nous. On l'a vu, c'était possible en national, donc ce sera possible en Ligue 2.
Le prochain match à domicile à Diochon, ce sera face à Lens, même si Lens n'est pas très bien classé, ça reste quand même une affiche. Ça peut faire 5000, ça peut faire plus. Vous ne faites pas d'illusions là encore?
C'est toute la difficulté du match du lundi soir, je ne veux pas botter en touche. Oui, je pense que si on avait joué vendredi, on visait les 5000 spectateurs ou plus. En jouant le lundi soir à 21h au mois de février, peut-être avec de la pluie, ça va pas être tout simple. Mais voilà, on fait ce qu'il faut pour faire venir les gens au stade.
À Michel, à 18h55, on n'a pas encore parlé du FCR. Peut-être que vous appréciez, en tout cas on y vient. Après près de 3 ans de cohabitation pas simple, le FCR a décidé de sortir du projet QRM. Ça change quoi pour vous ?
Écoutez, vous m'avez déjà interrogé la dernière fois que je suis venu. J'ai répondu que ça ne changeait rien pour nous. Le FC Rouen a pris une décision. Nous, le projet continue. Je ne suis pas venu dans ce projet QRM pour faire du Quevilly. Je suis venu dans ce projet QRM pour amener, pour travailler à amener le football professionnel, à ramener le football professionnel sur l'agglomération rouennaise. On va continuer comme ça et je pense que c'est légitime.
Est-ce que vous allez continuer à jouer en rouge à Diochon ou est-ce que vous allez revenir aux couleurs, on va dire, traditionnelles de l'USQ ? Est-ce qu'il y aura un petit peu plus de jaune dorénavant ?
Vous savez, vous anticipez un peu les choses, mais moi je ne vois pas pourquoi on changerait.
Ça ne changera pas. Vous allez garder les mêmes maillots exactement.
Ça changera peut-être pas.
Peut-être pas. Ça veut dire quoi ? Parce que non, moi j'imagine que vous y avez réfléchi forcément.
Oui, mais manière, je vous avez
dû réfléchir à un nouveau logo. Ce qui est normal, va forcément falloir le changer, ce logo.
Ça, le logo, on est déjà en train de travailler dessus. Et je vous ai dit, je suis venu pour
faire. Il y a des agences qui travaillent dessus ?
Je suis venu pour travailler sur un projet Quevilly-Rouen Métropole. Voilà, il n'y a pas de raison qu'on change.
Donc vous jouerez en rouge, il n'y a rien qui change. C'est ça la question, c'est tout
non,
simple.
Oui, pourquoi on ne pourrait pas continuer à jouer en rouge et jaune ? Parce et en jaune
avait,
et rouge.
Parce qu'il y avait le FCR avant qui était rouge. Et donc
c'est pas moi qui ai décidé de sortir du projet.
Oui, mais comme ils sortent du projet, est-ce que la couleur rouge s'en va ? C'est ça la question.
Pourquoi elle s'en irait ?
Elle ne s'en ira pas, donc.
Ouais.
Le slogan, c'était « Unis pour gagner ensemble ». Vous réfléchissez à un autre slogan percutant ?
Bien sûr.
Vous pouvez nous en citer une idée ?
Non,
qu'est-ce que vous aimeriez faire passer dans un slogan ?
C'est dans les mains aujourd'hui d'une agence de com. Voilà, on a un partenaire qui travaille là-dessus. Moi, ce que j'ai envie de faire passer comme message, c'est qu'ensemble, on peut réussir de belles choses. Voilà, donc on va travailler là-dessus pour voir quel slogan, quel claim on peut mettre derrière ce beau projet.
Les filles du FCR qui jouent en D2 jouaient cette saison à Lozelle. La saison prochaine, ça peut continuer ou forcément non ?
Écoutez, je n'ai pas encore abordé ce sujet-là, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va développer au sein de Quevilly-Rouen Métropole un vrai projet pour les féminines. Le FC Rouen, quand il était dans le projet, avait la main sur le sport féminin. Aujourd'hui, comme au début de l'aventure, il était question d'avoir de la D2, voire de la D1 féminine. Donc le FC Rouen étant sorti, QRM travaillera sur le projet féminin.
Est-ce que ça veut dire les filles du FCR en D2 toujours à Lozère, ou est-ce que ça veut dire non, maintenant vous êtes parti
Écoutez, je pense que c'est à la ville de Rouen qu'il faut poser cette question-là, parce que à partir du moment où le FC Rouen sort du projet, c'est pas à QRM de résoudre les problèmes du FC Rouen.
Donc ça sera non.
Leur manque de terrain. Mais attendez, c'est pas.
Non, c'est une question,
Moi, je vais être très clair, c'est pas à Michel Mallet de compenser les problèmes et à la ville de Petit-Quevilly de compenser les problèmes de manque de terrain de la ville de Rouen.
Voilà. La saison est difficile aussi pour le FCR, son projet est en point d'interrogation également. Alors ce n'est pas votre problème, vous allez sûrement me dire, mais vous avez peut-être un avis, est-ce que le FCR peut rebondir ?
Non, moi je ne veux pas m'engager sur des commentaires là, c'est jamais facile le sport, j'ai vécu par le passé des hauts et des bas, donc à chacun, on porte notre croix nous en ce moment, ou en tout cas on porte le poids de notre montée en Ligue 2 et d'essayer de se sauver. Bon vent au FC Rouen et à lui de mener sa barque.
Avec Manu Abreu, l'entraîneur qui négocie son départ et qui pourrait être remplacé par quelqu'un que vous connaissez bien.
Non, mais c'est pour ça que je dis, je veux pas faire de commentaires là-dessus. J'ai vécu ça par le passé et c'est douloureux à vivre. Donc je souhaite pas de mal à personne, ni à Fabrice Tardy, ni au FC Rouen.
Ah, rapidement, un dossier qui vous concerne, le dossier Guézoui, qu'a signé à Valenciennes, alors que vous estimiez qu'il était encore sous contrat. On en est où ?
Bah écoutez, on est dans les arcanes administratives.
On va vers les prud'hommes.
Oui, on va vers les prud'hommes. Moi, vous me connaissez depuis longtemps. J'ai un profond respect de l'engagement de la parole donnée. A fortiori, quand au-delà de la parole donnée, il y a une signature d'apposer sur des documents. Donc, à chacun de faire respecter les choses. Je n'ai aucun doute sur le fait que demain, si je ne respecte pas mes engagements, un joueur quel qu'il soit mènera les mêmes démarches.
Michel Mallet, merci. Merci d'avoir poussé la porte de Bienvenue au Club. Merci d'être venu, merci d'être resté. Et bon vent en Ligue 2. Je dois avouer qu'on y prend, nous aussi, évidemment, vite coup.
Merci à tous les deux. Et Bienvenue au Club qui revient forcément dès lundi prochain.
Biodistribution, groupe Biocombustible, le spécialiste normand du bois de chauffage et granulé. Biodistribution-energiebois.fr, vos donneurs.
Il est 19h sur France Bleu Normandie. France Bleu Soir arrive. Frédéric Dorel, Arnold Derek avec France Bleu Soir et Karine Lemarchand qui est l'invité d'Arnold.